bien bonjour chers amis, chers gourmets, gourmettes, toujours fidèles au rendez-vous. Eh bien, je suis tellement content de vous retrouver comme chaque semaine. Et aussi vous dire un grand merci car je sais que les cotes d'écoute, façon de parler, augmentent. Alors c'est un grand bonheur que de vous savoir toujours présent pour ce podcast Assiette et fourchette par Philippe Mollier avec Monsieur Bruno Guglielminetti que je salue au passage, qui est le réalisateur de cette émission, je le rappelle. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir des sujets qui, je l'espère, vont vous passionner, puisque moi, ils me passionnent. On va parler aujourd'hui de la table des chefs. Vous allez voir un sujet qui quand même mérite une attention particulière puisque cette table des chefs existe maintenant depuis 20 ans et elle a fait un travail remarquable. On va parler aussi d'un sujet qui me fascine, le thé, parce que j'ai eu l'occasion de visiter dans le monde entier, notamment en Asie. Je suis allé directement dans ce qu'on appelle des jardins de thé et je vais vous expliquer ce que c'est que la cueillette impériale avec les trois doigts quand on va chercher les feuilles suprêmes de cette boisson millénaire. Et puis pour terminer aussi un sujet qui, je l'espère, vous intéressera. Vous savez, l'hiver, on a toujours un peu de difficulté. Moi, j'ai toujours un peu de difficulté à les fruits. Bon, ils font souvent un long cheminement. Ils viennent de loin. Ils sont pas toujours bons. Alors moi, je favorise en général les agrumes et puis bon, les pommes, les poires, bien sûr, puisqu'on sait qu'on en a. Mais il y a des fruits auxquels on n'a pas toujours pensé, qui sont utiles aussi, qui sont riches en vitamines et qui sont souvent excellents. Ce sont les fruits secs, donc les fruits séchés. Alors vous allez voir qu'on peut faire plein de choses avec ça. Donc je vais commencer avec la table des chefs, en fait, dont monsieur notre cher ami Ricardo est le porte-parole depuis longtemps. Il s'est donné à cette cause alimentaire qui est vraiment intéressante puisque c'est un but non lucratif quand même, qu'il faut que le dire, qui a été fondé en 2002 par monsieur Jean-Pierre Archambault. Et cette organisation a pour but de nourrir, d'éduquer non seulement les enfants mais souvent leurs parents à travers le Québec. On parle d'éducation qui se font dans des centres, mais aussi dans 150 classes, par des chefs, par des professionnels, qui viennent donner des cours et qui viennent expliquer à ces enfants non seulement comment faire la cuisine, mais aussi comment acheter, comment planter, comment faire récupérer les légumes. Souvent, on appelle ça les légumes moches, vous savez, les légumes qui sont pas très beaux, mais qu'on avait tendance et qu'on a encore tendance malheureusement à acheter à la poubelle parce qu'ils ont une semaine de trop. Mais ces légumes sont encore très bons. Alors, on peut dire que vraiment, il y a ce mouvement qui a été créé, donc comme je disais, par M. Archambault, qui maintenant a pris ses lettres de noblesse et est connu un peu par tout le monde, puisque c'est un organisme quand même qui régit à travers tout le Québec et qui donne des résultats. On parle de, vous savez, 20 millions de repas ont été fournis en 20 ans. C'était énorme, donc on a aidé des causes, on a aidé des familles, et donc c'est très très important. Et cette année, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a une cause, j'aime pas dire ça parce qu'en général on favorise les grandes surfaces, mais il faut quand même le faire puisqu'on n'a pas le choix, c'est la société IGA qui a décidé de s'associer en fait avec la table des chefs, et on va vendre jusqu'au 22 mars des semences. Donc, dans ces supermarchés, au coût de 5,99 $, c'est pas très cher, des semences intéressantes qui vous permettent et qui permettront de faire, évidemment, pousser des légumes un peu particuliers. Alors, c'est la façon de contribuer aussi à cet organisme. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on achète, la récupération, souvent, puis il y a des gens qu'il faut quand même payer là-dedans. C'est pas, on crée pas un organisme dans 150 classes sans que les gens soient payés. Ça existe pas, même si les chefs donnent beaucoup d'eux-mêmes. Ben il y a des gens qu'il faut payer, des plongeurs, c'est ceux qui mettent dans les paniers, enfin tout ça. Bon, alors on a besoin de ce financement, donc je vous encourage jusqu'au 22 mars à faire cet achat. Puis ceux qui veulent aussi, bon, peuvent le faire au caisse directement en disant que c'est pour la table des chefs, donner de l'argent. Alors à ce moment-là, ça va directement à l'organisme. Donc voilà mon petit côté social, mon petit côté paternel de cet événement qui, je pense, mérite qu'on s'y intéresse. Le deuxième sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui me fascine puisque j'ai eu l'occasion de parcourir ces jardins de thé à travers l'Asie particulièrement. Et le thé qui est une boisson, on n'a pas idée de comment cette boisson peut être consommée dans le monde parce que c'est des milliards de personnes. Je dis des milliards, je n'ai pas dit des millions, je dis bien des milliards. de personnes qui consomment le thé tous les jours. Et puis quand on pense au thé, on va dire souvent, bon, ben, c'est le thé à l'anglaise parce qu'on a une image un peu caractéristique. Mais il faut penser que bien avant ça, il y a d'autres civilisations qui ont consommé le thé. On parle d'une boisson qui date de 2737 années avant Jésus-Christ, donc, et qui serait originaire de la Chine. Alors, c'est quand même pas n'importe quoi. Et qui est partie de l'Asie, donc, pour aller en Perse ensuite, faire la route des Indes. Et au passage, bien évidemment, à chaque fois, ces gens-là, en fait, laissaient des semences où on plantait, à ce moment-là, l'arbre de thé, l'arbuste. Et on l'a, pour pouvoir le transporter, puisque c'était les grandes traversées, on l'a conditionné, on le faisait fermenter, donc on laissait le thé fermenter, il devenait noir, et on le transformait en brique. Donc on avait une brique séchée, ce qui permettait de le mettre sur le dos des chevaux et de le transporter d'un pays à l'autre. L'exemple le plus flagrant qu'on a, et je l'ai vu lors de ma visite en Chine, c'est que lorsqu'on a construit la Grande Muraille de Chine, on transportait le thé comme ça d'un bout à l'autre pour que les soldats puissent en consommer, parce qu'il y a des endroits en Chine où évidemment le thé ne poussait pas. Donc les gens avaient cette facilité de pouvoir consommer le thé fermenté. Il existe 500 variétés de thé à travers le monde. Quand on pense qu'il existe juste quelques variétés, ben non, parce qu'il y a des thés très différents. On en retrouve au Tibet, en Mongolie, on en retrouve maintenant évidemment une grande consommation en Russie, puisqu'il a fait sa route, hein. Et avant d'arriver en Europe, en fait, plus précisément en Angleterre, il fait un petit tour en France, mais c'est vraiment là qu'il a pris un peu souche et qu'on le retrouve encore aujourd'hui servi à l'anglaise, le 5 o'clock, qui est cette tradition de servir le thé avec une garniture de petits sandwichs, de scones, de Devonshire cream, donc la crème que l'on sert avec du Devon, et puis les preserves, les confitures et tout ce qui va avec le thé. Donc c'est ce qu'on appelle le thé à l'anglaise. Mais il faut savoir aussi que le thé, c'est une philosophie. Et il y a un pays auquel on ne pense pas, mais qui sont autant consommateurs de thé que les Anglais, ce sont les Allemands. Les Allemands ont un goût absolument incroyable pour le thé. Moi, c'était ma grande surprise lorsque j'ai fait ces recherches et que j'ai découvert que le thé était très, très, très recherché en Allemagne. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que je vous parlerai de ces jardins de thé dans lesquels j'ai eu la chance de parcourir en Chine, mais surtout aussi à Madagascar, pour me retrouver dans des plantations immenses où la plupart du temps ce sont des femmes qui viennent cueillir très tôt à la rosée le matin les premières pousses de thé que l'on ramasse. On parle des trois feuilles, les trois premières feuilles, les bourgeons, qui sont les meilleurs, qui sont ceux que les spécialistes recherchent lorsqu'on veut être un grand spécialiste de thé. Et je pense à la maison des trois thés à Paris, avec une spécialiste mondiale du thé avec qui j'ai eu l'occasion de prendre un cours sur l'histoire du thé. Je me suis rendu compte que je ne savais rien dans le thé. C'est aussi simple que ça. Puisqu'on parle autant de la température de l'eau que de la température de la tasse, que toute la façon de boire, le cérémonial de boire le thé, ça se fait pas juste au Japon, mais ça se fait aussi en Chine et dans d'autres pays, à Taïwan notamment, où on a une importance capitale pour ce qui est tout le thé. Alors cette cueillette impériale qui consiste à ramasser les jeunes bourgeons, bon, on va ensuite le faire sécher. Mais il y a aussi cette tradition que vous connaissez sûrement, puisque quand on parle de thé, on parle aussi de thé, vous savez, on dit au Maroc, on prend le thé à la menthe. Donc, c'est une tradition berbère qui consiste à prendre, évidemment, les feuilles de menthe que l'on va laisser infuser dans l'eau chaude, mais souvent, on va ajouter beaucoup de sucre aussi. Donc, le thé à la menthe, à la marocaine, va se prendre différemment des autres thés qui vont se prendre la plupart du temps dans des infusions, mais quand même beaucoup plus courtes et tout à fait différentes. Alors, il existe, on l'a dit tout à l'heure, plus de 500 variétés de thé dans le monde, c'est beaucoup, c'est énorme, mais la plupart du temps, on va avoir trois catégories. Je dirais, première catégorie, les feuilles fraîches, comme le thé à la menthe, que l'on va consommer directement. Ensuite, le plus souvent, et ce qu'on va retrouver un peu partout, notamment au Japon, sont les thés verts séchés. Le sencha, le thé matcha sont des exemples de ces thés que l'on va préparer à la japonaise avec un petit, un genre de blaireau, un genre en bambou qui va servir à remuer le thé vert et que l'on va consommer de différentes façons. Et puis, il y a ensuite les thés, non seulement les thés verts, mais les thés en sachet qu'on va retrouver la plupart du temps séchés notamment dans les préparations anglaises, dans lesquelles on va ajouter de la bergamote, dans lesquelles on va ajouter des fleurs, des écorces d'orange ou autres spécialités qui vont faire des thés aromatiques. Et puis les troisièmes sont les thés fermentés, donc les thés russes, les thés chinois, qui sont des thés noirs, des puères, on les appelle comme ça, et qui sont des thés donc extrêmement fermentés, donc assez corsés, assez costauds, et que l'on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui vont adorer les thés en feuilles, ce qu'on appelle les thés en feuilles, mais qui ne seront pas capables de manger les thés plus fermentés. Alors cette magnifique histoire du thé, ben, vous pouvez la retrouver ici, hein. Il y a une maison de thé fabuleuse qui s'appelle Camellia Sinensis au Québec, à Montréal en particulier, et qui offre non seulement des cours sur le thé, mais des services de thé à vous faire découvrir chaque fois que vous allez visiter cette maison, vous allez découvrir des spécialités, on pèse le thé, on vous fait découvrir les nouvelles découvertes du mois ou de l'année, puisque ces gens-là vont directement eux-mêmes chercher leur spécialité de thé. Ça mérite un détour, donc Camellia Sinensis, je le rappelle. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le thé, il existe de nombreux ouvrages qui vous permettent de découvrir cette merveilleuse boisson que l'on appelle le thé. Voilà pour le thé, en ce qui concerne cette chose. J'avais dit que je vous parlerais aussi des fruits secs. Il me reste un peu de temps, on va le prendre. On parle souvent, quand on parle des fruits secs, on parle des canneberges, on parle des raisins, on parle différentes choses, mais savez-vous que l'hiver, vous pouvez faire un excellent pot-au-feu, des tagines ou même tiens, simplement des filets de porc avec des pruneaux secs, avec des abricots séchés, avec des figues séchées. Ce sont des fruits qu'on va retrouver conditionnés, donc qui ont perdu leur humidité. Et ce que je vous conseille de faire, c'est acheter des fruits biologiques dans ce cas-là, parce que vous allez éviter tous les conservateurs qu'il peut y avoir à l'intérieur pour la déshydratation de ces fruits. Donc, on va éviter les pesticides aussi. Donc, on sait que, notamment dans les fruits, il y a souvent beaucoup de pesticides. Alors, il y a une concentration des pesticides si vous achetez des fruits qui ne sont pas biologiques. Donc, vraiment, je vous recommande. Et puis, moi, je vous fais souvent des filets de porc avec les abricots secs, là, ou à servir avec une petite semoule. Croyez-moi, ça mérite le détour. C'est très, très agréable. Et puis, ça va vous faire arriver jusqu'au printemps. Vous allez voir bien vite. On y arrive au printemps. Allez, j'espère que ça vous a plu. Ben moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine gourmande. Je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.